est 17h, Niamey. Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires au micro Reylat Soumana. À la une de l'actualité, ce lundi 15 novembre 2021, près de 600 têtes de bétail récupérées des mains des groupes armés non étatiques par l'armée nigérienne ont été restituées à leurs propriétaires dans la commune de Tondikiwindi, région de Tillabéri. Plus de précisions avec l'autorité communale. La conférence des parties COP26 a pris fin samedi à Glasgow, au Royaume-Uni. Après deux semaines de négociations, des engagements ont été pris pour lutter contre les effets du changement climatique. À suivre la réaction de JVE. Dans la partie magazine de cette édition, nous parlerons de la vente aux enchères publiques par les huissiers de justice. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par le sport. En football, l'équipe nationale du Niger, le MENA, dispute en ce moment au stade général Seyni Kounché la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre Djibouti. Un match de classement pour le MENA qui a perdu toute chance de qualification. Continuons la note sport en taekwondo. Le samedi 13 novembre à l'Open de Paris, Nouridine Issaka a décroché une médaille d'or et Abdulrazak Alfaga remporte la médaille d'argent. En judo, Ismaël Alassane Jubo, catégorie de 66 kg, remporte la médaille d'or au championnat d'Afrique Dakar 2021 au Sénégal. Sur un tout autre plan, ce sont près de 600 têtes de bétail qui ont été récupérées samedi auprès des groupes armés non étatiques par les forces de défense et de sécurité du Niger et remises aux autorités du village de Mangaizé, commune de Tondikiwindi de la région de Tillabéri. Selon le vice-maire de Tondikiwindi, dès réception des animaux, le maire a mis en place un comité mixte de 4 personnes chargées de la vérification et de la remise des animaux à leurs propriétaires. Le vice-maire Hassan Halidou est joint au téléphone par Moussa Hassan.
Il y a 126 têtes de vaches, 354 têtes de chèvres et 94 têtes de moutons. On a procédé à la mise en place d'un comité chargé de restituer les animaux à leurs propriétaires. Le comité est composé du maire, donc, ou son représentant, du chef de village de Mangaizé, du représentant du chef de canton, qui est à Mangaizé, et le chef de la brigade des gardes nationaux, qui sont basés à Mangaizé, parce que c'est eux qui sécurisent le lieu. La personne doit d'abord amener les étiquettes qui sont sur ces animaux, avant d'entrer dans l'enveloppe. Après vérification, s'il a vu les animaux, il va devoir amener des témoins, dont un chef de village, et au moins 2 à 3 personnes de son village, qui peuvent témoigner que c'est effectivement ces animaux. Pour le moment, les gens se sont en train de venir vers 11 ou de vers partout pour vraiment voir. Hier, à notre absence, on avait appris qu'il y a 2 personnes qui ont vu leurs animaux, donc on les a demandé d'aller amener les témoins. Pour le moment, on n'a pas encore remis les animaux des propriétaires.
Les organisations de la société civile de Tillabéri, regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, ont organisé une prière collective avant-hier à la Grande Mosquée de Tillabéri. Amma Oumarou, le secrétaire général du cadre d'action, a déclaré que c'est pour la paix au Niger. Il est au micro de Boubacar Oumarou.
Il s'agit d'une prière collective que nous avons organisée dans l'intention d'implorer le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux pour qu'il descende la paix dans la région de Tillabéri et dans tout le Niger entier. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'implorer Dieu pour qu'il fasse miséricorde à tous ces morts civils et militaires qui ont payé de leur vie cette insécurité qui ne fait que grandir du jour au lendemain.
Une centaine de pays étaient à la COP26 tenue à Glasgow au Royaume-Uni pour trouver des voies et moyens afin de limiter les effets de la crise climatique. À la fin de cette rencontre samedi, après 2 semaines de négociations, les dirigeants mondiaux ont pris une série d'engagements dans ce qu'ils ont appelé le pacte de Glasgow. Quelques précisions avec le président de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba.
En 1992, lorsque la convention a été créée, la lutte globale a été orientée sur l'adaptation et sur l'atténuation. Mais aujourd'hui, il y a un autre élément qui n'avait pas été pris en compte, qui est les pertes et préjudices. Il y a des catastrophes qui font en sorte qu'il y a plus d'inondations, plus de sécheresses, plus de feux de brousse. Donc, c'est des crises humanitaires davantage que nous sommes en train de vivre. La demande des pays les moins avancés et les pays africains peut-être en particulier, c'était d'avoir un fonds pour prendre en charge cette question. Mais beaucoup de pays tels que les États-Unis l'ont balayé d'un revers pour dire que non, il y a les fonds d'urgence humanitaire qui couvrent ces aspects. Le concept même des pertes et préjudices n'était pas dans les jargons des négociations avant. Mais cette COP a permis de mettre ça dans le pacte de Glasgow. Bon, l'Afrique n'a pas eu véritablement gain de cause par rapport à certains sujets, tels que les sujets liés au financement, liés aux pertes et dommages. Mais il y a quelques résultats qui peuvent être profitables à l'Afrique, donc le Niger va se retrouver dedans.
La filière du natron dans le village d'Achinoumla, commune de Dirkou, région d'Agadez, rencontre des difficultés. Cette année, la production est faible selon le maire adjoint et même en cas de grosse production, elle manque de débouchés, a poursuivi le maire adjoint de cette commune rurale. Docteur Sanda Malam est au micro d'Abari Abagana.
Pour le natron, la situation est encore plus difficile. Le jeudi passé, j'étais à Achinouma. C'est là où le village qui dispose de la mare du natron rouge qu'on exploite. Et le 1er novembre, ils ont commencé à l'exploiter. Et là-bas aussi, la situation n'est pas en tout cas tout à fait satisfaisante. Et que les producteurs de natron vendent ou bien échangent avec le produit. Les personnes ne viennent avec de l'argent liquide pour acheter, et c'est avec des trocs, avec des motos, des ustensiles, des rien du tout que le natron est échangé. Donc cette année, nous avons pris des mesures, en tout cas des dispositions, pour au moins casser ce système d'usurier qui a tendance à déjà donner des crédits aux producteurs et qu'après la production, ils n'ont même pas 2-3 sacs pour eux-mêmes, ils payent juste les dettes et finalement ils n'ont rien. Donc ils travaillent pour les autres.
Autre production en difficulté, le poivron de Diffa connaît une certaine mévente sur les marchés nationaux et internationaux. De l'avis de certains spécialistes, la découverte d'un autre type de poivron du Nigeria a fait chuter le prix de celui du Niger, estime Issoufou Barma, vendeur de poivron au marché de Diffa. Il est au micro de Guidi Abdraman.
Le poivron, il y a 7 mois en arrière, son prix était à son pic jusqu'à un moment où on disait que le poivron est fini. Les grossistes ont tout payé en naira, le sac coûtait 28 à 29 000 naira. Et même en CFA, il avoisine 30 000 francs CFA. Ils ont acheté le poivron et l'ont fait stocker. Maintenant, il y a du poivron qui rentre de vers l'ouest. Notre poivron n'a plus l'attraction qu'il avait auparavant. Ce poivron de l'ouest est plus sollicité puisqu'il coûte moins cher. Auparavant, de Maïdougou, Maradi, Niamey, Zender et Vergouré, les gens affluaient pour acheter le poivron d'ici. Sa valeur s'affiche du début jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, au vu de la percée de notre poivron et avec son prix très bas, tous ont abandonné notre poivron pour se rier sur celui qui arrive de l'ouest. Voilà pourquoi la valeur de notre poivron a beaucoup baissé. Aujourd'hui, le sac est à 23, 24 à 25 000. Les commerçants qui ont acheté les sacs à 28 500 et qui l'ont stocké perdent 5, 3 à 4 000 francs CFA par sac.
Devant la faiblesse des systèmes réglementaires et la circulation des produits de qualité inférieure et falsifiée, l'Union africaine a décidé de la création d'un organisme panafricain afin de pallier au problème. Ainsi a été créée l'Agence africaine de médicaments, AMA. Déjà 15 pays du continent, dont le Niger, ont déposé leur instrument de ratification. Cette agence va permettre aux États de mieux collaborer en matière de surveillance du marché des médicaments, explique Dr Danouhou. Dr Nouhou Barira, directrice de la pharmacie et de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé publique. Elle est au micro d'Adama Dawaki.
Le Niger a ratifié parce que aussi le Niger fait partie de l'Union africaine. Et nous travaillons également déjà au niveau de ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Ça nous permet également d'avoir les mêmes pratiques avec nos voisins. Et ça nous permet de protéger nos marchés. Quand un laboratoire veut venir s'installer, quand un laboratoire veut amener ses produits, c'est la même procédure qui est utilisée dans les 15 pays. Donc c'est ce que la peut faire et qu'on puisse protéger aussi nos populations. Et ça va nous permettre également de développer l'industrie au niveau de l'Afrique. Peut-être qu'on va élire des pays qui vont produire tel ou tel produit. Et aujourd'hui, on avait vu avec la COVID-19, c'est ça qui a accéléré les choses. Le Niger, aujourd'hui, on a pas mal de produits de la médecine traditionnelle qui sont utilisés, mais de façon toujours traditionnelle. Je pense que ce qui manque, c'est la recherche sur ces produits, c'est des financements pour vraiment pouvoir arriver à des médicaments traditionnels. L'AMA prend en compte cet aspect parce que c'est un gros potentiel. Chaque pays doit mettre en place une agence. On doit faire ça avant la fin de l'année.
Toujours en santé, une étude de données de 13 pays africains par l'Organisation mondiale de la santé révèle que le taux de mortalité des personnes atteintes de diabète et du COVID-19 serait 2 fois plus élevé que chez les patients souffrant d'une quelconque comorbidité. Une analyse rendue publique par l'OMS le jeudi 11 novembre dernier. L'analyse a démontré aussi que le taux de létalité est de 10,2% chez les patients diabétiques atteints de COVID-19 contre 2,5% pour l'ensemble des patients atteints du coronavirus. Une mission du ministère de la Communication séjourne depuis ce week-end à Zender pour rencontrer les travailleurs et les responsables des médias afin d'échanger sur le projet de convention collective interprofessionnelle. Selon la chef de mission, il s'agit de recueillir les avis de la base sur ce sujet. Ramatou Chombiano est au micro de Maria Manou.
L'objectif de notre séjour ici, c'est de rencontrer les travailleurs et les responsables des médias de la région de Zender pour leur faire part des travaux sur le projet de convention collective qui a été revu par le ministère et le comité, qui est presque à son parachèvement. Donc, le ministère a jugé utile en tant qu'organe de régulation de voir comment nous pouvons procéder pour parler à la base, montrer le travail que le comité a fait avec les experts et leur expliquer le contenu. Qu'est-ce que c'est que la convention et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette convention qui, depuis 2010, tarde à être signée. Parce que incessamment, on pense qu'il peut y avoir une signature de cette convention-là. Et à l'intérieur, si vous n'êtes pas informé, on pense que ce serait un travail fait à moitié.
La partie magazine de cette édition, au terme de la loi du 3 décembre 2020, portant statut des huissiers de justice du Niger, seul huissier de justice a qualité de procéder à la vente aux enchères publiques. Maître Aboubakar Abdoulaye Chalaré, président de l'Association des huissiers de justice du Niger, explique au micro de Balkis Hamidou.
Qui est habilité à faire une vente aux enchères?
Au sens de la loi 2020 du 3 décembre 2020 portant statut des huissiers de justice, l'huissier de justice a seule qualité de procéder à la vente aux enchères publiques des biens réformés de l'État, des collectivités, du secteur parapublic, des personnes morales de droit privé, ainsi que ceux réformés des organisations non gouvernementales, des représentations diplomatiques et des organismes internationaux.
Et comment gagner une vente aux enchères?
C'est au plus offrant. Qui dit mieux, comme on dit, quoi? Quand on veut faire une vente aux enchères, par exemple, d'une table ou bien d'un mobilier, d'un salon, on dit voilà, la mise à prix c'est 50 000. Donc il y a un crieur public qui est là, qui dit la mise à prix 50 000. Qui dit mieux 50 000, 50 000. Il y en a qui va dire 55, il y en a qui va dire 110 000. Jusqu'à on va arriver à quelqu'un qui va dire 80 000. On va prononcer 2 fois à la crier ce que la personne a dit, une fois qu'il n'y a pas une autre personne qui dira un montant supérieur à ce qui a été proposé, c'est à juger la personne qui a donné.
Qu'est-ce qu'il faut éviter au cours d'une vente aux enchères?
Au cours d'une vente aux enchères, il faut éviter la tricherie, comme dans tout travail. Par exemple, il y a des ventes aux enchères, vous entendez, on parle de caution, ça n'existe pas. C'est illégal, c'est totalement illégal. La loi ne le prévoit pas. Et tout ce que la loi n'a pas prévu est faux et totalement illégal. Et celui qui s'en fait en cours, en tout cas, a des sanctions disciplinaires et judiciaires. Et aussi, comme on dit, elle est publique. Tout le monde est averti, il y a l'information qui circule et ça se fait en public devant tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait une certaine corruption à ce niveau parce que c'est public, c'est transparent, c'est fait devant tout le monde.
Est-ce qu'en cas de tricherie, on peut remettre en cause la vente aux enchères?
Mais tout le monde a le droit d'assigner en justice. Une fois que vous sentez que votre droit a été lésé, mais vous pouvez aisément assigner l'huissier ou bien l'organisme qui a fait la vente aux enchères pour remettre en cause la vente aux enchères et réclamer votre dû.
C'est C'est la fin de cette édition en français. Tout de suite, retrouvez Tanane Foudé Ahmed pour le journal en tamashek. Au revoir.